La marche du monde.
La République centrafricaine, c'est nous tous ensemble. C'est tous ceux que nous aimons. Ce sont nos familles, nos clans et nos tribus. C'est nos cases, c'est nos champs. C'est nos troupeaux, c'est nos réserves de chasse et de pêche. La République centrafricaine, c'est la terre de nos aïeux. C'est la tombe de nos pères et de nos mères. C'est tout ce qui nous a donné la vie ou qui nous fait vivre.
La voix de Barthélemy Boganda, père fondateur de la République centrafricaine dans la marche du monde. La voix de Barthélemy Boganda, père de tous les centrafricains. La voix de Barthélemy Boganda, disparu le 29 mars 1959 dans l'explosion de l'avion qui le ramenait à Bangui.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Et pour cette édition spéciale de la Marche du Monde consacrée à Barthélemy Boganda, nous avons le plaisir d'être reçus dans la maison même de sa fille, Agnès Volotegba. Merci beaucoup
Bonjour.
De recevoir RFI.
Et bonjour. Merci beaucoup d'être là.
Nous sommes donc dans l'intimité de votre maison, ici à Paris. Que signifie pour vous la définition que donne votre père de la Centrafrique?
C'est un message qui est pour nous toujours très présent. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de la notion strictement géographique, la Centrafrique pour nous veut dire qu'effectivement nous réunissons en un ensemble un grand nombre de peuples, un grand nombre de territoires aussi, surtout. Je crois que d'ailleurs que mon père à un moment donné a été appelé le rassembleur de terre. Et je crois que c'est aussi une notion qui nous permet de nous projeter dans un avenir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la République centrafricaine est un pays, j'allais dire presque limité, cantonné à l'ex ou Bangui-Chari, mais je laisse quand même un espoir. Je me dis qu'un jour peut-être bien que l'idée de mon père se réalisera.
Si Barthélemy Boganda est le père fondateur de la République centrafricaine, ancienne Ubangi-Chari, au sein donc de l'AEF, hein, c'était l'Afrique équatoriale française, il est aussi le premier prêtre ubanguien, puisqu'il a été ordonné prêtre dans la cathédrale de Bangui le 27 mars 1938. Il avait environ 28 ans. Agnès Boganda, Agnès Volotegba, c'est votre nom centrafricain. Vous êtes donc la fille d'un prêtre.
Oui. Ça m'a jamais beaucoup troublée, en fait. Même pas du tout, d'ailleurs. Je peux vous raconter une histoire?
Bien sûr.
Quand même, si un jour, je devais être un peu plus âgée, après la mort de mon père, j'ai posé la question à ma mère, Michèle Jourdain, sa femme. Je lui ai dit, mais enfin, maman, quand même, papa était un prêtre. Elle me dit, oui, ma fille, et en quoi cela te pose question? Mais quand même, toi, tu t'es jamais posé une question de cet ordre-là? Et ma mère me dit, mais enfin, ma chérie, ton père m'a préféré à toute autre chose. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te poses cette question? Alors évidemment, quand votre mère vous dit ça, vous avez une espèce de, une foi dans la vie, une foi en vous-même qui peut durer des jours et des jours, des mois et des mois. Alors même, je crois que c'était quand même peu de temps après la mort de mon père.
Ce qui signifie qu'à votre sens, la foi de votre père ne s'est pas arrêtée au moment où il a pris femme?
Non, pas du tout. Je crois que c'était une foi profonde, intime, tellement intime d'ailleurs qu'il n'était pas question de l'afficher. C'est une foi, j'allais dire, presque naturelle. Voilà. Et je pense qu'il a pris femme, il a eu des enfants. Et cette foi-là a perduré. Peut-être même qu'il a considéré que c'était un cadeau de la vie, que cette rencontre-là avec Michèle Boganda.
Agnès Volotegba, quelles sont les valeurs morales qui lui viennent de son éducation chrétienne et que peut-être il vous a transmises dans votre éducation?
Alors, je vais vous répondre évidemment avec des souvenirs d'enfant, mais aussi avec des souvenirs en quelque sorte éduqués au fil des années. Je crois que les deux choses dont j'avais complètement conscience quand j'étais enfant, c'était la justice d'une part et l'égalité d'autre part. Je crois que c'était les deux choses essentielles, les deux concepts dont j'ai pu avoir le souvenir le plus ancien. Peut-être effectivement parce que mon père s'est battu essentiellement sur ces deux concepts-là. Et en même temps, ce sont deux concepts qui s'appuient sur des règles de droit simples à connaître. Le concept de liberté est plus difficile peut-être à saisir. Mais l'égalité et la justice, quand on vit, surtout quand on vit en Oubangui-Chari, dans ces années-là, sont les concepts essentiels, je pense, qui guident la mission de mon père alors qu'il était prêtre et la mission qu'il a continué à mener alors qu'il était en politique.
Premier prêtre noir dans son pays, premier député noir de son pays, créateur du premier journal local, fondateur d'un nouveau parti politique, le Mézane, pour défendre justement la justice et le progrès social, premier maire de Bangui en 1956 et président du Grand Conseil de l'AEF à Brazzaville. Le parcours de Barthélemy Bogonda place son action politique au-delà de la seule Centrafrique, et c'est ce que vous montrez, Jean-Dominique Plenel, en travaillant sur les écrits et les discours de Barthélemy Bogonda. Vous êtes vous aussi autour de la table, dans la maison, ici à Paris, de Agnès Wolutegba.
Bonjour, Bonjour. Et merci. Vous savez, j'ai vécu 14 ans en Centrafrique, et donc, comme beaucoup de gens qui viennent en Centrafrique, le nom de Bogonda revient partout, n'est-ce pas? Donc, vous avez le nom du pays, vous avez l'hymne national, vous avez la devise, vous avez une avenue qui porte son nom, vous avez sa statue, vous avez un lycée. Donc, c'est une référence qui apparaît partout. Barthélemy Bogonda a eu cette vision très large depuis le début et il a organisé son parcours politique en fonction de ça. Lorsqu'il y a eu la loi cadre, donc il aurait pu être le vice-président de Centrafrique, il ne l'a pas voulu. Il a voulu que ce soit Abel Goumba qui soit vice-président de l'Oubangui-Chari pour que lui, il reste à Brazzaville comme président du Grand Conseil. Et parce qu'il voulait justement avoir une action sur toute la région et même au-delà de l'AIF.
Voilà. Barthélemy Bogonda, il est contemporain de Nkrumah, père du panafricanisme. Il est aussi contemporain de Senghor, le futur président poète sénégalais, ou encore d'Oufouette Boigny, hein, le futur président de la Côte d'Ivoire. Alors, ils sont tous nés dans les années 1905-1910, et il faut bien voir qu'à l'époque, tous se retrouvent à Paris, à l'Assemblée nationale. Ils sont députés. Comment se situe Barthélemy Bogonda, par exemple, par rapport à Oufouette ou à Senghor?
Alors, par rapport à ces deux hommes politiques, c'est très différent. Donc, la position de Bogonda vis-à-vis d'Oufouette était plutôt antagoniste. Si vous voulez, Oufouette Boigny était RDA, donc il n'avait pas les mêmes positions politiques. Le RDA, vous vous souvenez, ça a été créé en 1946, et puis il y a eu une scission. Il y a une partie du RDA qui était très communiste, donc c'était Modibo Keïta, Sékou Touré, et puis une autre partie qui était plus, disons, socialiste, si vous voulez.
Donc une vision de l'avenir de l'Afrique, voilà, tout en rupture, voilà, avec l'ancien colonisateur, la France.
Voilà, c'est ça. Mais Oufouette Boigny, comme il avait une position très importante en France, puisqu'il a été ministre, hein, il a été ministre d'État, au moment de la Constitution de 58, il n'a pas associé Bogonda à la préparation de cette Constitution. C'est Lisette qui a été choisie, alors que Lisette n'était que représentant du Tchad, et Bogonda, qui était président du Grand Conseil de l'AEF, a été écarté. Donc il y a vraiment, entre les deux, il y a eu quelque chose. Alors que vis-à-vis de Senghor, ce n'était pas le même cas, puisque Bogonda a envoyé Goumba et Dako à Cotonou quand il y a eu la constitution du PRA qui regroupait les partis africains. Donc il y a certainement là, au niveau des rapports entre les deux hommes, enfin les trois, Bogonda va plus vers Senghor que vers Oufouette. Il y a vraiment une opposition.
Alors, Oufouette Boigny, c'est aussi l'initiateur de la loi pour l'abolition du travail forcé, loi votée en 1946. Et c'est un sujet auquel votre père, Barthélemy Bogonda, est extrêmement sensible, Agnès.
Tout à fait. Il a, dès 1946, eu un comportement, j'allais dire, très véhément, presque véhément, contre le travail forcé et contre ce qui restait demeurer encore comme pratique du travail forcé. Je crois que ça a été l'un de ses projet fondamental, c'est-à-dire à partir du moment où il décrète effectivement le progrès social s'entend par, j'allais dire, des projets adjacents, et le projet adjacent essentiel, c'est lutter contre le pacte colonial, et surtout dans ses dimensions criminelles, dans l'aspect criminel de l'organisation coloniale en Haïf. Et il avait une... Là aussi, j'ai quelques souvenirs, si vous voulez. Il avait une façon aussi de travailler ce thème-là pour obliger l'administration française à bouger sur ce point-là. À chaque fois, on lui signalait un problème, on lui disait un tel a été battu, un tel est mort suite à des coups de bâton, un tel est emprisonné de manière injuste. Et mon père allait souvent, très souvent sur place, et il prenait des notes. Il prenait des notes sur des cahiers d'écoliers. Il prenait des notes, il essayait de vérifier au mieux, et peut-être pas tout de suite, peut-être à partir de 51-52, il avait cette habitude, à chaque fois qu'il y avait un cas, il allait sur place, il transcrivait tous les renseignements qu'il avait, et il s'adressait au commissaire ou au gouverneur pour avoir une information précise, pour savoir ce qui s'était passé vraiment, et quelles allaient être les suites de l'affaire.
Agnès Wolotegba, rappelons que Barthélemy Bouganda est orphelin très jeune à cause du travail forcé. De quelle façon a-t-il perdu son père, sa mère, vos grands-parents ?
Mon père en a parlé, il l'a même écrit. Sa mère, qui s'appelait Silibé, a été tuée à coups de bâton, alors lui dit par des miliciens, et lui place cette victime vraiment au rang d'une victime du travail forcé. Et c'est un souvenir qui nous est resté très, très, très longtemps. Mais lui, il n'en parlait pas trop souvent. Il avait sa liste hein, des personnes qui étaient victimes du travail forcé. Il l'appelait ça le martyrologue. Et il l'a tenu pendant 12 ans. Et moi, je me souviens des noms. Bien sûr, il y avait Nzila Kema. Il y avait Datto, Pauline Datto, qui a été elle aussi, comme ma grand-mère, tuée à coups de bâton. Il y avait une autre femme aussi qui s'appelle Denji, qui a été tuée aussi comme ça. Un homme Bakala. Vous voyez, je m'en souviens encore de ces noms-là.
Barthélemy Bouganda est contre le travail forcé, mais certainement pas contre le travail. Écoutez sa voix sur RFI.
Notre plan quadriennal de croisade du travail s'applique surtout au développement de l'agriculture qui demeure pour longtemps encore l'économie de base pour l'AIF en général et pour l'Ubangui-Chari en particulier. Notre croisade est axée surtout sur la culture du coton, de l'arachide, du café.
Et quelles sont les mesures que vous envisagez pour améliorer les rendements ?
Parmi ces mesures figurent surtout un personnel d'encadrement plus nombreux et mieux formé et des méthodes culturelles mieux adaptées. Il faudra avant tout faire comprendre à nos populations la nécessité du travail pour l'amélioration de leurs conditions d'existence et c'est en cela que consiste notre croisade du travail.
En effet, il y a de nombreux économistes qui soutiennent que dans un pays sous-développé, c'est le travail des habitants qui réellement constitue le capital.
Effectivement, nous avons voulu produire la matière première qui constitue ce capital avant d'entreprendre en seconde étape l'industrialisation.
Cependant, Monsieur le Président, même les produits agricoles que vous allez produire dans le cadre de ce plan quadriennal, pour être évacués, ont besoin d'une certaine activité industrielle comme la construction de voies de communication et des ports. Est-ce que là aussi vous avez prévu quelque chose ?
Il existe effectivement le chemin de fer Congo-Océan qui relie Brazzaville à la mer, la voie fluviale Congo-Ubangui reliant Brazzaville à Bangui reste maintenant à relier Bangui au Tchad pour donner à l'AIF une grande voie fédérale qui sera son épine dorsale économique.
Barthélemy Bouganda pense que pour bien travailler, les Centrafricains doivent être bien instruits, bien éduqués, mais certainement pas battus comme dans le travail forcé. Ses idées, il les défend au sein du nouveau parti qu'il a créé, le MESAN, un parti qui a 5 commandements, Jean-Dominique Plenel. On peut peut-être revenir sur ces 5 verbes du MESAN, je vous laisse les énoncer.
Alors, les 5 verbes du MESAN, c'est nourrir, vêtir, soigner, loger, instruire. Alors, ce qu'on doit savoir pour le MESAN, c'est ceci. Donc, En 1946, lorsque Boganda est élu à l'Assemblée nationale à Paris, il n'est pas au sein de l'Assemblée territoriale de Lubangui-Chari. À l'Assemblée territoriale de Lubangui-Chari, il y a un parti qu'il patronne, plus ou moins, et qui est organisé par Georges Darlan. Et en 1947, avec Georges Darlan, il crée l'Union Ubanguienne. Et très rapidement, Boganda va se rendre compte que ce n'est pas dans sa direction. Donc finalement, en octobre 1948, il démissionne de l'Union Ubanguienne et il crée son propre parti. Le parti est créé en septembre 1949 et il va, à partir de là, mener une action localement. Mais il est à Paris. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en 1952, Boganda va se faire élire à l'Assemblée territoriale de Lubangui-Chari pour être à la fois d'un côté à Paris, à l'Assemblée nationale, et surtout avoir une action locale. Et donc à partir de 1952, de mars 1952, il va y avoir 17 députés mézanes dans le deuxième collège de l'Assemblée territoriale. Et en 1957, donc quelques années après, ce sera l'ensemble des députés ubanguiens qui seront mézanes. Donc vous voyez, il y a un travail qui est organisé par Boganda, et autour donc de ce parti qui s'appelle le Mézane. On parle des cinq verbes du Mézane. Vous voyez aussi la force de Boganda, c'est-à-dire essayer d'aller vers les gens, dire des choses importantes mais simples, qui soient compréhensibles. Même aujourd'hui, vous allez à Bangui, les gens ne connaissent pas bien l'histoire de Boganda, il faut dire la vérité, mais les cinq verbes, on les comprend, on les connaît. Et c'est vraiment, il y a une communication, on parle de ça aujourd'hui, oui, c'est vraiment un communicateur.
Et par quels moyens, je crois, Agnès, vous avez finalement fait l'expérience de la politique de votre père à l'échelle de la maison. C'est tout l'esprit de la coopérative que voulait développer Barthélemy Boganda.
Oui. Vous voulez parler, par exemple, de la plantation qu'il a créée à Bobangui, à peu près 90 km de Bangui, la capitale.
Bobangui serait-ce le laboratoire, au fond, de sa politique. Comment ça se passait ?
Je dirais pas laboratoire, c'était un lieu de vie et de travail. En fait, à Bobangui, c'était la terre de son clan, hein, de sa famille. Et donc, à partir d'un certain moment, au nom de je ne sais quelle tractation, je n'ai jamais été bien au courant de ça, en tout cas, il a eu la possibilité de créer une plantation. Donc, il a créé une plantation de café. Je crois qu'aussi, à un moment donné, il avait envisagé d'avoir des plants de cacao et puis aussi de poivriers. Mais il n'y avait pas que la plantation. Il y avait par exemple aussi, et c'est lui qui l'a fait construire, une école et un dispensaire. En fait, il a décidé à un moment donné qu'il fallait avoir un espèce de lieu un petit peu pilote, effectivement, où les gens pouvaient avoir tout à disposition. Alors il dit aux gens, on va faire une école, c'était très simple. Oui, d'accord. Avant l'école, il faut faire des briques. Oui, d'accord. Donc ils font les briques, on monte l'école, et après mon père envoie une lettre à l'inspecteur en lui disant, voilà, l'école est créée à Bobangui, maintenant il nous faut deux instituteurs. C'était effectivement, je pense que c'était l'idée qu'il avait, qu'il aurait peut-être souhaité voir se reproduire un peu partout sur le territoire de Lubangui, c'est-à-dire des lieux où l'essentiel est là, le nécessaire plutôt est là, qui donne une forme d'autonomie, et puis qui permet aussi aux gens de travailler sur place, de se soigner sur place et d'envoyer leurs enfants à l'école.
Nous avons installé notre studio RFI dans la maison de la fille de Barthélemy Boganda à Paris. Agnès Wolotegba nous prépare quelques lettres de son père Barthélemy Boganda pour nous les faire partager juste après les infos sur RFI.
La marche du monde.
Une colonne de secours est arrivée après plusieurs heures de marche harassante en pleine brousse marécageuse À l'endroit où s'est écrasé dimanche soir, 29 mars, l'appareil commercial à bord duquel avait pris place M. Barthélémy Boganda, Premier ministre de la République centrafricaine, la disparition de M. Barthélémy Boganda laisse dans son pays un vide cruel et plonge dans le désarroi non seulement ses nombreux amis et ses militants fidèles, mais une population tout entière pour laquelle le dimanche de Pâques 1959 restera désormais un tragique souvenir.
Mes frères, sans doute Barthélémy Boganda était grand parmi nous parce que depuis de longues années, le peuple l'avait élu pour le représenter, puis pour le diriger. Parce qu'il avait, pour ainsi dire, fondé et qu'il présidait la République centrafricaine. Parce qu'il présidait avec toutes les qualités que l'on souhaitait voir réunies en lui. Mais il était grand, surtout à nos yeux de chrétiens, parce qu'il était prêtre, l'élu de Dieu.
C'était le dimanche 29 mars 1959, Barthélémy Boganda, l'élu de Dieu et de tous les Centrafricains, disparaissait dans l'explosion de son avion qui l'a ramené à Bangui. Si la Centrafrique venait de perdre son fondateur, une femme venait également de perdre son mari et des enfants, leur père.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde enregistrée dans votre maison, Agnès Wolotegba, Boganda. Merci de recevoir RFI en ce jour du souvenir de votre père, Barthélémy Boganda. Et nous avons tous une pensée particulière pour nos auditeurs en Centrafrique et dans toute la sous-région. Comment la petite fille que vous étiez a-t-elle vécu cet événement?
C'est difficile même encore aujourd'hui d'en parler. En fait, nous n'étions pas, nous les enfants, à Bangui à ce moment-là. D'ailleurs, ma mère aussi était à Paris. Elle a appris la nouvelle à Paris. Comme elle ne savait pas du tout ce qui allait suivre, ce qui allait arriver, elle a préféré nous laisser à Paris. Elle nous a confié, mon frère Bertrand, ma sœur Catherine et moi-même, à mon oncle et à ma tante. Et elle est partie à Bangui. Elle nous a fait revenir près d'un mois après la mort de mon père, fin avril. Et pour moi, comment vous expliquer? Je crois que l'histoire de la Centrafrique se fracasse en quelque sorte contre mon front le jour où nous arrivons à l'aéroport. Parce que finalement, ma mère nous a fait donc venir à Bangui et nous sortons de l'avion et en face de nous, il y a une immense foule silencieuse, complètement silencieuse. Et nous ne comprenons pas du tout. Parce que d'habitude, quand on arrivait à Bangui, il y avait toujours du monde, la joie, il y avait même un orchestre, je crois que c'était un orchestre de musiciens Haoussa. Vous savez, ils soufflent dans une flûte sans s'arrêter du tout. Et puis ils ont aussi des tambourins sur lesquels ils frappent avec un bois courbé. Et donc on était toujours accueillis avec cette musique. Et là, rien. Pas de musiciens et cette foule silencieuse. On ne comprenait pas parce que nous ne savions pas du tout. Nous ne savions pas. Ma mère nous a vite emmenés à la maison et c'est là que nous avons appris la nouvelle. Mais pour moi, je me souviendrai toujours de cette foule silencieuse. C'est absolument inconcevable en Afrique, autant de monde, dans un si grand silence.
Jean-Dominique Pénel, vous nous accompagnez depuis le début de cet enregistrement. Vous avez collecté les écrits et les discours de Barthélémy Boganda. Au moment où son avion explose, on a compris que Barthélémy Boganda avait une position extrêmement importante. Il dirige le Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française. Il a créé ce parti, le Mézane, qui est un parti tout à fait indépendant de la France. Au fond, qui dérange-t-il à l'époque?
Alors, Boganda veut que tout l'AIF, c'est-à-dire le Tchad, l'Oubangui-Chari, le Moyen Congo et le Gabon restent unis et deviennent indépendantes ensemble. Mais au sein de chacun de ces territoires, vous avez des gens qui ne l'entendent pas forcément comme ça et qui se disent « c'est l'occasion de devenir calife dans mon pays, donc je ne veux pas me dessaisir de l'opportunité qui m'est présentée ». Et vous savez que la France a joué aussi là un jeu un peu mauvais, c'est-à-dire que les règles étaient qu'il fallait, je crois, c'était un délai de 3 ou 4 ou 5 mois pour décider si oui ou non on allait être indépendants ensemble. Donc la France aussi a joué là en faveur du morcellement. Tous les hommes au pouvoir, donc au Tchad, au Congo, Moyen Congo, au Gabon, ne sont pas forcément d'accord avec Barthélemy Boganda. Bon, la France met des règles qui ne permettent pas de prendre le temps d'aller discuter et de bien s'organiser. Et puis vous avez dans les pays voisins, le Congo belge ne voit pas d'un bon œil l'idée des États-Unis d'Afrique latine. Ça voudrait dire qu'on prendrait un espace qui était belge. Même il parlait de l'Angola, donc vous avez les Portugais. Il y a donc un certain nombre de personnes à l'extérieur qui ne sont pas d'accord. Et puis bien entendu aussi à l'intérieur, vous avez les colons qui ont mené une vie très dure à Boganda. Je crois qu'on sous-estime complètement la haine et la vindicte qu'ont eu certains colons en Oubangui-Chari contre Boganda.
Les projets de Barthélemy Boganda sont grands pour son pays, dans une Afrique équatoriale française dont le centre est à Brazzaville, où par deux fois, le général de Gaulle est venu parler aux Africains. Alors c'était en 1944 d'abord pour la conférence de Brazzaville, et puis à nouveau en 1958 pour demander aux Africains de dire oui ou non à la communauté française. C'est alors Barthélemy Boganda, président du Grand Conseil de l'AEF, qui accueille le général de Gaulle.
Monsieur le Président de la République, vous avez droit à notre respect, car pour nous, de Gaulle, c'est la France, et dans l'immense dette de reconnaissance que l'Afrique a vis-à-vis de la France, une grande part revient à celui qui, en même temps qu'il combattait pour libérer la patrie de l'occupation étrangère, réunissait la conférence de Brazzaville pour nous libérer du pacte colonial. Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour achever l'œuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer définitivement, par un engagement solennel, une AEF en marche vers son indépendance, mais toujours unie à la France indépendante et immortelle. Aujourd'hui, comme en 1940, vous êtes notre dernière chance. Aujourd'hui, comme en 1940, c'est de vous que nous attendons le salut. Aujourd'hui, comme en 1940, l'AEF a hâte d'entendre votre voix. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive de Gaulle, vive la République.
De Gaulle serre maintenant la main de M. Barthélemy Boganda, le remercie pour les mots qu'il vient de prononcer, s'avance maintenant à son tour sur le podium. Salut la foule. Et prend la parole.
Pour moi, dans ces lieux historiques, que des souvenirs remontent dans mon esprit et dans mon cœur. Des souvenirs que nous avons symbolisés tout à l'heure quand nous sommes allés nous incliner devant la stèle de Félix Eboué. Pourquoi la France renierait-elle son œuvre africaine en dépit de certaines démagogies qui ne font que couvrir divers impérialismes? Non. Cette œuvre, elle ne la renie pas. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique, certainement, dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposées par l'évolution des peuples et par le mouvement général du monde.
C'est un grand souvenir de petite fille, Agnès Wolotegba Boganda, de Gaulle à Brazzaville.
De Gaulle à Brazzaville ou mon père qui parle à De Gaulle? Je crois que pour moi, le souvenir essentiel, c'est, vous savez, quand il dit « Parlez, monsieur le Président, parlez sans équivoque ». Eh bien, cette phrase-là, dans la cour de récréation, alors tout petit, on répétait ça, « Parlez, monsieur le Président, parlez sans équivoque ». On ne comprenait pas très bien ce que voulait dire « sans équivoque ». Et je me souviens que je suis allée voir ma mère me disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire « sans équivoque » ?» Et ma mère, qui avait une façon très directe de parler, elle dit « Oh ben, ton père dit simplement au général de parler sans mentir ». J'ai trouvé que c'était... Mon père avait un, pardonnez-moi le mot, mais un culot de parler comme ça au général. Et j'ai encore une autre anecdote. Parce que si vous voyez certaines photos, mon père est petit à côté du général. Et donc il y avait cette idée que le parler sans équivoque, mon père avait osé le dire au général. Et donc je me souviens avoir posé la question à un familier de la maison. Et je lui dis, mais tu sais quand même, le général il est beaucoup plus grand que papa. Parce que vous voyez, j'avais cette idée qu'il y avait quand même des choses entre mon père et le général qui n'étaient pas forcément de la plus grande diplomatie. Et en tout cas, la réponse que j'ai gardée en tête me dit « Mais t'inquiète pas du tout de cette question-là. Ton père est aussi un grand homme. La différence qu'il fait, c'est simplement le képi. »
Jean-Dominique Plenel, l'historien, ce discours donc à Brazzaville, Bouganda, De Gaulle.
Il y a une référence à Félix Eboué, donc le fameux discours de Brazzaville. Ce que Eboué avait proposé, ce qu'on appelait la nouvelle politique indigène, n'a pas été entièrement mise en œuvre par la France. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que De Gaulle, c'est lui qui avait créé, donc après la Seconde Guerre mondiale, le RPF. Or, s'il y a un lieu où le RPF était honni, c'était en Oubangui-Chari. Et c'est tellement uni qu'aujourd'hui encore, en Centrafrique, vous avez une expression qui dit que quand quelque chose ne va pas, un homme est fâché avec sa femme, il la tape ou quelque chose comme ça, on dit « fais le RPF à la maison ». Et le RPF, c'était Malbran, c'était les colons, les gens qui ont été extrêmement violents contre Boganda. Et je pense que quand De Gaulle est venu en Oubangui-Chari en 1953, il a d'ailleurs mesuré à quel point les gens qui se réclamaient de lui étaient en discordance en réalité. Voilà. En 58, avant que Boganda rencontre De Gaulle, il était en fait probablement partisan de la même position que Sékou Touré. Et il était partisan d'une indépendance. Vous avez des textes de Bouganda qui sont très marqués sur l'idée de prendre son indépendance.
Bouganda aurait pu dire non
oui.
à De Gaulle.
Et alors vous en avez la preuve dans quelque chose d'assez étonnant. Pour le référendum de 58, Bouganda publie un tract en français et en sango. Et c'est une série de propositions. Moi, Bouganda, j'ai dit à De Gaulle. Et De Gaulle dit oui. Et notamment, il y a une phrase, il dit, moi, Bouganda, j'ai dit à De Gaulle, plus de RPF. Et De Gaulle dit oui. C'est-à-dire plus de tyrannie, plus de cetera, choses comme ça. Et en réalité, le tract de 58, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'idée sur le référendum lui-même, il n'y a pas d'idée sur la communauté. Simplement, Bouganda dit, De Gaulle m'a dit oui, nous allons lui dire oui le 28 septembre. Et certainement que la rencontre de Bouganda personnelle avec De Gaulle, donc en juillet, hein, juillet et août, c'est ça qui a fait que Oubangui-Chari n'a pas pris la position de la Guinée, mais ça aurait été possible.
Unité, dignité, travail, c'est la devise de Barthélemy Bouganda pour son pays, ce pays appelé Oubangui-Chari, qu'il a rebaptisé Centrafrique.
Il est tout de même surprenant que le territoire de l'Oubangui-Chari, connu sous ce nom depuis une cinquantaine d'années, change brusquement d'étiquette et devienne République centrafricaine.
C'est un symbole.
Cela est un symbole, vous avez parfaitement raison, car depuis la fondation du gouvernement général en AIF, il y a une cinquantaine d'années, les gouverneurs généraux ont eu soin de diviser l'AIF en plusieurs territoires. Il est exact que ce découpage correspondait à une certaine personnalité pour certains territoires. Le Gabon, par exemple, est absolument différent du Tchad. Le nord du Tchad est absolument différent du Moyen-Congo. Mais quand on prend les territoires limitrophes tels que le Moyen-Congo et l'Oubangui-Chari, il n'y a absolument pas de personnalité et de démarcation nette. Car moi-même qui vous parle, je suis né congolais, je suis devenu ubangien et aujourd'hui je ne sais plus ce que je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le terme République centrafricaine pour désigner ce pays de l'Ubangi-Chari. Tout le monde recherche cette unité. Du côté historique, ethnique et coutumier, nous avons des tribus identiques à cheval sur le fleuve Ubangi. Du côté français comme du côté belge, nous avons les mêmes tribus. C'est pour cela que le problème se pose non seulement en territoire français, mais également en territoire belge, étant donné que tous ces territoires parlent la langue française, ont la culture française. Nous avons l'espoir d'en arriver un jour à faire un grand ensemble avec tous ces territoires qui, en somme, ont toujours été, sinon des mêmes tribus, du moins très voisins.
Résolument panafricain, Barthélémy Bouganda semble à l'étroit à l'intérieur des frontières qui se dessinent au moment des indépendances. Pourquoi Jean-Dominique Plenel insiste-t-il autant sur son expérience personnelle, hein, fils de ma tribu, de part et d'autre du fleuve ?
Écoutez, l'Ubangi, ça a été délimité entre les Anglais, les Belges et les Allemands. Donc c'est quand même très artificiel. Et d'autre part, il y a quelque chose qui est très remarquable, c'est que les Français, sur l'Ubangi-Chari, ont constamment hésité. Vous savez, aujourd'hui, les problèmes qui existent là, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est toute la région qui est entre le sud du Tchad et le nord de la Centrafrique. Or, si vous regardez, il y a eu un moment où dans les années 30, l'Ubangi-Chari montait presque en dessous de N'Djamena. Et puis, on a redescendu, on a remonté. Et c'est justement la zone à problème aujourd'hui qui a été l'objet de découpage, redécoupage, aller-retour pendant la période coloniale. Et le territoire centrafricain aujourd'hui date de 1939, les frontières. Donc, Bouganda avait vraiment raison de poser cette question. Il le dit, vous voyez, que c'est tout très artificiel.
Que sa tribu, elle existe de part et d'autre.
Les Nbaka sont des deux côtés.
Mouvement pour l'évolution sociale en Afrique noire. On peut vaincre physiquement son prochain et le réduire en esclavage, mais on ne pourra jamais domestiquer son âme et son esprit au point de l'empêcher de penser. So quoi, so you know? So quoi?
Oh, so quoi, so? Tout homme est un homme. Zokwezo, c'est le proverbe de la lutte pour la dignité de l'homme de Barthélémy Bouganda, votre père, Agnès Wolutekba. Comment s'articuler à votre sens ce projet panafricain progressiste et social avec, en même temps, le respect des coutumes traditionnelles ?
Je crois que Zokwezo est une vérité fondamentale, essentielle, qui est partagée en Ubangi-Chari comme ailleurs. Il y a peut-être certains administrateurs coloniaux et certains affidés africains qui n'ont pas cette notion-là en tête à l'époque, mais je crois que c'est essentiellement partagé par tout le monde. Évidemment, mon père, au travers de sa formation de séminariste, a acquis aussi certaines valeurs fondamentales qui lui permettent de dire et d'affirmer, et de continuer à dire « Zokwezo, tout homme est un homme ». Ça veut dire aussi qu'il faut admettre la différence, c'est-à-dire que tout homme est homme, mais aussi parce que tout homme est autre. Et donc je crois que c'est ça essentiellement. Il a une façon aussi très singulière peut-être de parler de ça. J'accepte l'autre aussi parce qu'il est différent de moi. Et c'est cette force-là qu'il a lui quand sur le plan, j'allais dire alors là, strictement politique, il parcourt toutes les terres ubangiennes à la rencontre de toutes ces tribu qu'il accueille souvent d'ailleurs en lui disant « tu n'es pas des nôtres ». Et il est obligé de les convaincre toutes d'aller à l'unité au moins du pays. Et je crois que c'est sa puissance à lui de considérer, oui, Zokwezo, tout homme est homme, Et tout homme est homme parce que aussi l'autre est différent. Et c'est ça qui fait la richesse du tout.
La Marche du Monde, enregistrée dans la maison de Agnès Wolotekba Boganda, la fille de Barthélémy Boganda, dont nous entendons aujourd'hui la voix. Il faut se souvenir, car un peuple sans mémoire est un peuple sans histoire. Le nom de la République centrafricaine, c'est Boganda. Le drapeau de la Centrafrique, c'est Boganda. Et l'hymne de la Centrafrique, c'est encore et toujours Boganda.
À la vie, longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais de ce jour, pris dans la tyrannie, dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit d'unité.
Ah, vous connaissez les mots par cœur, Agnès?
Ah oui, bien sûr, je les connais par cœur, c'est normal. Je sais même la petite histoire, je crois qu'ils ont eu un problème à s'accorder. Mon père, ma mère et la personne qui a fait la musique de l'hymne, qui s'appelait Monsieur Pépère, je crois. Parce qu'il y avait un moment, il y a un sol, et mon père écrit à ma mère, il faut que vous changiez ça, parce que ce sol-là, à cet endroit, pour la voix de Colli, c'est-à-dire la voix d'homme, Scully, c'est homme en sanglots. C'est impossible, il faut que vous me changiez ça.
Le sol, c'était la note de musique. Les mots de votre père, on a entendu là dans cet hymne national les valeurs que défendait votre père. Avant de se quitter, Agnès Boganda, vous nous faites le plaisir d'ouvrir votre correspondance personnelle. Et vous avez choisi, pour les auditeurs de RFI, un extrait d'une lettre de votre père.
Oui, en fait, j'ai choisi... un échange de lettres qu'il a eu entre un militant et puis ce qu'il a répondu lui. Parce que je trouve que c'est important aussi de connaître ses relations qu'il avait avec ses militants. C'est-à-dire qu'il y avait en même temps un discours, l'entretien, la rencontre et tout ça, mais aussi la nécessité pour lui, puisqu'il était souvent à Paris, etc., de leur écrire. Alors j'ai retrouvé une lettre qui me plaît bien. C'est un militant qui lui écrit en lui disant voilà, il y a un certain nombre de personnes ici qu'il faut absolument que tu rapatries en France, parce que vraiment ces gens-là se comportent comme des malpropres criminels. Et donc ce militant cite 9 personnes, dont 3 révérends pères. Et mon père lui dit, c'est pas très compliqué, voilà. Il lui dit, cher ami, j'accuse réception de votre lettre et vous remercie de tous les renseignements que vous avez bien voulu me donner. Je retiens le nom des personnes que vous me signalez. Cependant, et là c'est très important quand même, il lui dit, je crois qu'il appartient à la population elle-même d'agir. Ceci étant, lorsqu'un patron ne se montre pas juste et humain à l'endroit de ses employés, ceux-ci doivent tout simplement le quitter. Si le curé vous insulte, quittez l'église et n'y revenez plus. De toute façon, le bon Dieu a bien imposé à ses créatures l'obligation de le servir, mais ces créatures peuvent le servir où elles veulent. Vous n'êtes pas obligé de retourner à l'église. Et alors ce qui est le plus drôle, c'est la fin de sa lettre. Il lui dit, bon, cette fois-ci je crois vous en avoir dit assez, mais je vous en prie, cessez vraiment de me demander ce genre de conseil. C'était ce genre-là de lettre qu'il écrivait.
Et qui pour vous représente bien justement la philosophie de votre père. C'est oui. Un petit peu aide-toi toi-même.
Voilà, tout à fait. Et puis il avait quand même aussi une grande confiance en les gens à qui il écrivait, à qui il parlait. Il y a une autre lettre comme ça où une personne se plaint, lui dit « Oui, mais le chef de district n'est pas du tout correct à notre endroit. Il n'applique pas la Constitution. » Et mon père lui dit, de toute façon, si c'est un chef de district, il doit appliquer la Constitution sans problème, et donc vous respecter et ne pas vous causer de tracas parce que vous êtes militant messane. S'il est français, il n'y a pas de problème, il doit respecter la Constitution. S'il n'est pas français, pourquoi est-il ici? Vous n'avez qu'à lui demander de partir. Et s'il ne veut pas partir, mangez-le. Oui, je sais, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément très correct, c'est vrai que... Mais... Alors il lui dit, mangez-le, c'est la solution la plus efficace et la plus rapide.
Le grand humour du grand homme, voilà, Barthélémy Bougonda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agnès Wolotagba. Votre livre Ramondji est à découvrir aux éditions d'Atim Betty. Et les écrits et discours de Barthélémy Bougonda sont aux éditions L'Harmattan, collectés et commentés par Jean-Dominique Plenel. Barthélémy Bougonda, père fondateur de la Centrafrique, c'était une marche du monde réalisée par Cécile Pompéani avec la complicité de mon confrère Laurent Corot. Écrivez-nous marche.monde@rfi.fr, exprimez-vous sur la page Facebook avec humour de la marche du monde. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.